Les sociologues disent que si 1% d'une population donnée vit d'une certaine manière, ces gens auront une influence sur toute la société environnante. Or, le chapitre 2 de l'épître de l'apôtre Paul à Tite concerne justement l'impact qu'une église fidèle à Dieu doit avoir autour de soi. Je commence à le lire. « Toi, au contraire, parle selon ce qui est conforme à l'enseignement authentique. » Verset 1. L'apôtre établit une transition entre les faux prophètes dont il a parlé et Tite qui est le porte-parole de la vérité. Dans sa deuxième épître à Timothée, Paul l'exhorte disant « Proclame la parole, insiste, que l'occasion soit favorable ou non, convainc, réprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. » Parmi les caractéristiques qui font qu'une Église peut se déclarer en accord avec le modèle du Nouveau Testament, son architecture et le son de ses cloches n'en font pas partie. Ce qui importe par contre est l'enseignement qui y est donné et il doit être à la fois selon la vérité et pratique, c'est-à-dire concerner la foi, la croyance chrétienne qui a été transmise une fois pour toutes et la façon de vivre qui en dépend. Ici, l'accent est plutôt mis sur le comportement des croyants qui doit être conforme à l'enseignement authentique. Conforme signifie proéminent, saillant, approprié, et le mot pour authentique a donné hygiène en français, c'est-à-dire sain et en bonne santé. Paul utilise 5 fois ce mot hygiène dans l'épître à Tite et toujours pour désigner une vie droite selon Dieu. La notion de saine doctrine est très fréquente dans les épîtres pastorales, tout comme le principe selon lequel une conduite droite va de pair avec une doctrine saine, alors que d'autres comportements ne sont pas acceptables. Dans les Écritures, la doctrine et le devoir, la vérité et le comportement sont toujours mentionnés ensemble. En d'autres mots, la doctrine, la foi, le comportement et les paroles doivent former un tout cohérent. En résumé, Paul dit donc à Tite, continue à exhorter les croyants de sorte que leur comportement soit approprié à l'enseignement selon la vérité qu'ils ont reçu. Je continue le texte. Dis aux hommes âgés d'être maîtres d'eux-mêmes, respectables, réfléchis, forts dans la foi, l'amour et la patience. Verset 2. Paul va maintenant s'adresser à plusieurs groupes sociaux et le premier est les vieillards. Dans les Écritures, l'âge est souvent synonyme de maturité. Job écrit « La sagesse appartient aux personnes âgées et une longue vie donne l'intelligence. » Cette affirmation est vérifiée par John Wesley, dont j'ai déjà parlé, et qui est le fondateur des églises méthodistes. À 83 ans, après avoir parcouru environ 400 000 km à dos de cheval, prêché 40 000 sermons, et écrit 200 livres et fascicules, il regrettait de ne plus pouvoir lire ou écrire plus de 15 heures par jour. Et après son 86e anniversaire, il a avoué qu'il avait tendance à rester au lit jusqu'à 5h30 du matin. Sans commentaire. Le mot traduit par « hommes âgés » est utilisé 3 fois dans le Nouveau Testament. Il est appliqué à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, et Paul se dit un vieil homme quand il écrit à Philémon. Dans la culture grecque, on appelait homme âgé celui qui avait dépassé les 50 ans. Ces hommes sont appelés à mener une vie exemplaire en étant maîtres d'eux-mêmes, littéralement tempérés ou modérés, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas verser dans les excès si fréquents des jeunes gens. En second lieu, ils doivent être respectables en se conduisant d'une manière digne, vénérable et honorable. En effet, un homme mature ne s'intéresse plus à ce qui est trivial et superficiel. Il ne devrait plus être moqueur et ne rit pas des plaisanteries de mauvais goût. Troisièmement, les hommes âgés doivent être réfléchis. Ce mot signifie avoir de la retenue, du discernement, du bon sens et un jugement juste. Enfin, ils sont forts dans la foi, l'amour et la patience. Dans ses épîtres, Paul associe fréquemment la foi en Dieu, l'amour envers Dieu et pour les autres, et la persévérance. Ici, cette troisième vertu est remplacée par la patience. Mais en fait, persévérance et patience sont pratiquement synonymes. Les personnes âgées qui ont fait un long bout de chemin avec le Seigneur devraient pouvoir démontrer, par leur vie, une foi ferme, un amour sincère et une patience ou persévérance à toute épreuve. Je continue le texte. Qu'il en soit de même des femmes âgées, qu'elles aient un comportement digne de Dieu, qu'elles ne soient pas médisantes ni adonnées à la boisson. Verset 3. Paul s'adresse maintenant à des femmes qui ont plus de 60 ans, âge que devaient avoir les veuves pour être inscrites sur la liste des veuves assistées par l'Église. Dans les assemblées du premier siècle, les femmes âgées assumaient diverses fonctions. Elles visitaient les malades et les prisonniers et offraient l'hospitalité aux croyants de passage. Elles parcouraient les rues et les places des villes à la recherche de nouveau-nés abandonnés, les recueillaient et les confiaient à des familles croyantes qui voulaient bien les adopter. D'une manière générale, les femmes âgées devaient avoir un comportement digne. Ce mot qui n'apparaît qu'ici dans le Nouveau Testament veut dire « pieux comme un prêtre ». Un comportement digne, c'est aussi se montrer modeste et discret dans sa tenue vestimentaire et dans ses attitudes. C'est l'opposé du comportement d'une allumeuse. Deuxièmement, les femmes âgées ne sont pas médisantes. Ce mot est la traduction de diabolos qui veut dire diffamer, calomnier, accusé faussement et qui, dans le Nouveau Testament, est appliqué 30 fois à Satan, que Jésus appelle le père du mensonge. Troisièmement, elles ne sont pas adonnées à la boisson, littéralement esclaves ou asservies aux excès de vin, ce qui à cette époque était courant comme de nos jours et pour les mêmes raisons qui sont aussi nombreuses que variées. Je continue le texte. Qu'elles s'attachent plutôt à enseigner le bien, qu'elles conduisent ainsi les jeunes femmes à la sagesse en leur apprenant à aimer leur mari et leurs enfants, à mener une vie équilibrée et pure, à être occupées aux soins domestiques, bonnes, à être soumises à leur mari, ainsi la parole de Dieu ne sera pas discréditée. Versets 3 à 5. En quatrième lieu, les femmes âgées doivent enseigner ce qui est bien aux jeunes femmes, c'est-à-dire ce qui est noble et excellent. Elles devraient leur faire profiter de leur expérience dans au moins 7 domaines différents. La liste qui nous est donnée constitue sans conteste ce que l'apôtre Paul considérait comme les priorités d'une épouse et mère. L'accent est mis sur ce que les jeunes femmes doivent être, puis sur ce qu'elles doivent faire. Les femmes mariées sont appelées à être aimantes envers leurs maris et leurs enfants. Il ne s'agit pas ici d'amour romantique ou sexuel, bien qu'ils aient leur place dans un mariage, mais d'un amour affectueux qui vient du cœur pour son mari et ses enfants. Contrairement à beaucoup de cultures, selon le Nouveau Testament, cet amour-là n'est pas une option, mais une obligation, et il s'apprend. Bien qu'ici, Paul ait plus particulièrement des épouses en vue, le principe d'aimer son conjoint s'applique évidemment aussi au mari, ce que l'apôtre précise ailleurs. Troisièmement, les jeunes femmes mariées doivent mener une vie équilibrée ou réfléchie. On a déjà vu ce mot qui signifie retenue, discernement, bon sens et jugement juste. Ces caractéristiques s'améliorent avec l'âge, en théorie du moins. Ensuite, les jeunes femmes doivent être pures au niveau moral et sexuel et donc fidèles à leur mari. Paul écrit à Timothée, « Je veux que les femmes s'habillent décemment, avec discrétion et simplicité, qu'elles ne se parent pas d'une coiffure recherchée, d'or, de perles ou de toilettes somptueuses, mais plutôt d'œuvres bonnes comme il convient à des femmes qui déclarent vivre pour Dieu. Cinquièmement, elles doivent être occupées aux soins domestiques. Cet enseignement est en porte-à-faux avec la philosophie de notre culture qui prône que les femmes sont libérées lorsqu'elles travaillent à l'extérieur. Si on ajoute à cette perspective la pression financière qui est souvent réelle, on comprend que de plus en plus de jeunes épouses et mamans passent le plus clair de leur temps hors de leur maison, ce qui les force aussi à faire garder leurs enfants dans des conditions pas toujours idéales. De plus, elles sont exposées aux tentations propres au monde du travail. Tôt ou tard, une belle femme, qu'elle soit mariée ou pas, se fera draguer. C'est comme ça. Le rôle de la femme est un véritable problème de société qui est encore bien plus difficile à gérer pour les chrétiennes surtout si le mari ne gagne pas assez pour faire bouillir la marmite. Sixièmement, les jeunes femmes doivent être bonnes, c'est-à-dire douces, aimables, agréables. Mais cette qualité est demandée à chaque croyant. Finalement, les jeunes femmes mariées doivent être soumises à leur mari. Alors là aussi, le bât blesse. Ce sujet a déjà été développé dans l'épître de Paul aux Éphésiens. La conduite féminine que Paul demande a pour but de ne pas discréditer la parole de Dieu. Ce mot a donné blasphème en français. C'est tout dire. Lorsque la conduite de quelqu'un qui se dit croyant laisse à désirer, Dieu et sa parole sont déshonorés. Par son prophète, l'Éternel a dit au roi David, « Pourquoi as-tu méprisé ma parole en faisant ce que je considère comme mal ? Tu as assassiné par l'épée Uri le Hittite, tu as pris sa femme pour en faire la tienne, et lui-même tu l'as fait mourir par l'épée des Ammonites. » Et parlant des Juifs, l'apôtre Paul écrit, « Tu es fier de posséder la loi, mais tu déshonores Dieu en y désobéissant. » Et ainsi, comme le dit l'Écriture, « à cause de vous, Juifs, le nom de Dieu est outragé parmi les païens. » Je continue le texte. « Recommande aussi aux jeunes gens de mener une vie équilibrée. Sois toi-même en tout un modèle d'œuvre bonne. Que ton enseignement soit fidèle et qu'il inspire le respect. Que ta parole soit juste et inattaquable, afin que même nos adversaires soient couverts de honte, ne trouvant aucun mal à dire de nous. » Versets 6 à 8. Les jeunes gens doivent mener une vie équilibrée. C'est la quatrième fois que nous rencontrons ce mot. Tite, qui était responsable du ministère sur l'île de Crète, devait donner l'exemple en étant un modèle. Ce mot veut littéralement dire une marque, une impression faite par un instrument ou encore un moule ou une copie. Thomas, le douteur, qui refusait d'admettre la résurrection de Jésus, a dit « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, je ne croirai pas. » Tite devait être un modèle en bonnes œuvres et par un enseignement fidèle, littéralement un enseignement non corrompu, non dépravé. Il devait à la fois enseigner et vivre la parole de Dieu de manière à inspirer le respect des autres. Quatrièmement, la parole de Tite devait être juste, c'est-à-dire droite, édifiante, faire du bien. Ce mot qui a donné hygiène en français est précédemment traduit par authentique. La conduite exemplaire de Tite, comme celle des jeunes et des vieux, hommes ou femmes, devait être inattaquable, afin que nul ne puisse trouver du mal à dire d'aucun croyant. Je continue le texte. Aux esclaves, tu recommanderas d'obéir à leur maître en toutes choses, qu'ils cherchent à leur donner satisfaction, qu'ils évitent de les contredire et se gardent de toute fraude, qu'ils se montrent au contraire dignes d'une entière confiance. Ainsi, ils rendront attrayant l'enseignement de Dieu notre Sauveur. Versets 9 à 10. Les esclaves, qui constituaient une partie importante des assemblées du premier siècle, devaient eux aussi honorer Dieu par leur comportement. Ce sujet a déjà été traité dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Sous la loi de Moïse, l'esclavage était réglementé, mais ni l'Ancien ni le Nouveau Testament ne le condamnent. Dieu se soucie, par contre, de la façon dont sont traités ceux qui sont dans l'obligation de servir les autres. Dans ses écrits, Paul reconnaît simplement la condition d'esclave et recommande les bonnes attitudes que lui et son maître doivent adopter s'ils sont croyants. Ici, il dresse une liste de 5 qualités pour un esclave. Premièrement, il doit obéir à son maître même quand il a le dos tourné, ce qui est également vrai pour un employé. Soit dit en passant que le mot pour maître a donné despote en français, mais c'est parce qu'il signifie détenir un pouvoir absolu. Deuxièmement, l'esclave ou l'ouvrier doit donner entière satisfaction dans son travail. Ensuite, il ne doit pas argumenter ou parler contre son patron, ni voler, même pas un simple crayon, ni utiliser sans autorisation le téléphone, l'internet ou la voiture de fonction. Et finalement, le serviteur doit se montrer loyal envers son maître. Cette conduite irréprochable du serviteur, de l'esclave ou de l'employé a pour but de rendre attrayant l'enseignement de Dieu notre Sauveur. Le mot pour rendre attrayant a donné « cosmétique » en français. À cet égard, on pourrait dire que parler avec douceur est le plus beau des rouges à lèvres et que tous les croyants devraient porter le fond de teint de la sincérité. Je continue le texte. « Car la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. » Verset 11. La conjonction « car » introduit le fondement théologique de tout ce que l'apôtre vient de préconiser. La grâce de Dieu est un attribut divin, mais c'est en Jésus-Christ qu'elle s'est pleinement révélée. Ce mot révélé a donné épiphanie en français et signifie venir à la lumière, manifester quelque chose qui était caché. La grâce de Dieu est un concept facile à comprendre, mais difficile à accepter parce qu'elle n'implique aucun effort humain. Dieu m'accorde la vie éternelle sans me demander ma coopération ni quoi que ce soit d'autre. Il veut seulement que je lui fasse confiance en acceptant Jésus-Christ comme mon sauveur. Mais une fois reçue, cette grâce de Dieu, quand elle est bien comprise, enseigne la juste façon de se conduire. Je continue le texte. La grâce nous éduque et nous amène à nous détourner de toute impiété et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et respectueuse envers Dieu, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Versets 12 et 13. La grâce de Dieu est apparue dans le passé en la personne de Jésus-Christ. Dans le présent, elle enseigne et éduque le croyant à adopter deux attitudes opposées. D'une part, rejeter toute impiété, c'est-à-dire ce qui est contraire au caractère de Dieu, comme l'immoralité, la mondanité et tous les vices qui sont monnaie courante ici-bas. D'autre part, la grâce pousse le croyant à mener une vie équilibrée, droite, juste et respectueuse envers Dieu. La vie équilibrée décrit la transformation intérieure du croyant, le changement de son comportement, ce qui fait qu'il devient juste dans ses relations avec les autres et respectueux envers Dieu. La grâce de Dieu a une dimension passée, présente, mais aussi future, puisque les croyants attendent la révélation de la gloire de Jésus-Christ. Là encore, le mot pour révélation est épiphanie. Jésus-Christ va se révéler et se manifester à deux reprises. La première fois, il reviendra dans les airs pour chercher les siens, un événement grandiose qui s'appelle l'enlèvement de l'Église. La seconde fois, à la fin des temps et après la grande tribulation, il descendra du ciel dans un immense fracas pour juger le monde et instaurer sur terre son royaume de 1000 ans. Paul appelle Jésus notre grand Dieu et Sauveur. C'est l'un des nombreux passages des Écritures qui déclare la divinité du Christ. Ici, elle est incontournable au niveau grammatical. En effet, il y a en grec un seul pronom défini devant « grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ », ce qui veut dire que l'expression « grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ » désigne une seule et même personne. Ce n'est pas tout. Le verset suivant dit « Il s'est livré lui-même en rançon pour nous afin de nous délivrer de l'injustice sous toutes ses formes et de faire de nous » en nous purifiant ainsi un peuple qui lui appartienne et qui met toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes. Verset 14. Dans cette longue phrase, les pronoms « il » et « lui-même » sont au singulier et donc se réfèrent à une seule et même personne qui ne peut être que celle qui est le grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ. De plus, dans le Nouveau Testament, il n'est jamais question du retour et de la révélation de Dieu le Père, mais toujours du Christ. Or ici, c'est notre grand Dieu et Sauveur qui sera révélé. Jésus est dit Sauveur parce que c'est lui qui s'est livré lui-même en rançon pour nous. Les exigences de la sainteté et de la justice divine devant être satisfaites, Dieu a envoyé son Fils afin qu'il paye la rançon pour mon rachat et le vôtre, si vous lui avez fait confiance. Sa mort expiatoire nous libère de l'injustice sous toutes ses formes et, en nous purifiant ainsi, il fait de nous un peuple qui lui appartienne. Paul explique cette vérité en détail dans le 6e chapitre de son épître aux Romains. Le peuple de Dieu, c'est-à-dire l'Église universelle composée de tous les croyants du monde entier, est appelé à mettre toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes. En d'autres mots, les bonnes actions ne sont pas une option que l'on prend quand ça nous convient, mais elles doivent régir toutes les facettes de notre vie quotidienne. Je finis le chapitre 2. Voilà ce que tu dois enseigner, dans quel sens il te faut encourager et reprendre les gens. Fais-le avec une pleine autorité, que personne ne te traite avec mépris. Verset 15. S'adressant de nouveau à Tite, Paul lui dit d'enseigner tous les aspects de la piété dont il vient de parler. Tout comme Timothée, Tite devait exercer son ministère public avec autorité, en exhortant ceux qui agissaient bien à persévérer dans leur voie et en corrigeant ceux qui n'obéissaient pas à la saine doctrine. Pour finir, Tite ne devait pas tolérer le mépris des judaïsants hérétiques parce qu'ils représentaient l'autorité de Dieu sur l'île de Crète. Moi, je crois que quand Tite a lu cette lettre, il a dû se faire tout petit parce qu'il se rendait compte qu'il prenait le relais du grand apôtre Paul.